Merci, Monsieur le Président. Bon, il est très difficile de lutter après les belles images de M. Paltet, mais j'ai soumis une petite feuille avec un résumé de cet exposé. Je peux même vous le dédicacer à la face résumée, ce que M. Paltet ne peut pas faire avec son PowerPoint. Donc, encore quelques minutes avant la pause, et comme ça, vous aurez bien mérité le café. Donc mon exposé rejoint tout à fait et complète tout à fait celui du professeur Paltet dans la mesure où il transcrit en termes institutionnels et juridiques les conceptions identitaires qui ont été décrites. Parce que, comme ce colloque s'intitule « Aux sources de la pensée chanousienne », on voit très bien que Émile Chanou a puisé l'inspiration profonde dans le fédéralisme suisse, qu'il a d'ailleurs décrit dans des termes magnifiques, comme certainement peu d'auteurs suisses ont pu le faire. Et donc, mon idée est de vous emmener aux sources du fédéralisme suisse. Donc là, on est vraiment dans les sources des sources. Et mon exposé sera divisé en deux parties. Quelques réflexions historiques sur le fédéralisme suisse dans son ensemble, c'est très important parce que, en fait, il me semble que c'est là que tout est né, dans la mesure où, comme Rome ne s'est pas faite en un jour, le fédéralisme suisse ne s'est pas fait en un jour non plus, et finalement, ce que Émile Chanou a pu constater et voir dans les années de l'entre-deux-guerres est le fruit d'un très long processus. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Dans une deuxième partie de l'exposé, je prendrai quelques exemples tirés précisément de cette période de l'entre-deux-guerres pour voir comment cette longue tradition de fédéralisme suisse a permis de résoudre nombre de problèmes qui se sont posés à ce moment-là. Donc, quelques réflexions sur le fédéralisme suisse dans son ensemble. Et ce qui a sans doute séduit Émile Chanou, c'est le fait que le fédéralisme suisse est authentique, a des éléments très, très authentiques, notamment les fruits d'une authentique sagesse. On verra que durant toute son histoire, la Suisse a su faire preuve d'une très grande sagesse, ce qui n'est pas toujours le cas pour beaucoup d'autres pays. Quand les Suisses ont décidé de s'offrir une fédération, ils l'ont faite très authentique aussi. Entendu, on peut ergoter sur la définition du mot authentique, mais en fait, on verra que quand les Suisses ont créé une fédération, une vraie fédération dotée de toutes les caractéristiques d'une fédération, ils ont donné les moyens d'aller au bout de leurs idées. Et quand ils l'ont voulu démocratique, la Suisse s'est voulue jusqu'au bout démocratique avec un ensemble d'institutions de démocratie, directe qu'on trouve nulle part ailleurs. Et cette justesse, cette authenticité dans la volonté de créer un pays fédéral est certainement la clé de la durabilité du système. La Suisse est un modèle pratiquement impossible à imiter. Ce qui n'exclut pas de s'en inspirer, mais il ne faut jamais avoir l'idée de vendre le modèle suisse en disant que la Suisse ou le fédéralisme suisse est un modèle, un produit d'exportation, parce que les caractéristiques suisses sont vraiment délicates à imiter. Dans ces Federalist Papers, la Bible du fédéralisme écrite par les auteurs qui ont voulu créer la Constitution américaine à l'époque de la Déclaration de l'indépendance, Madison a donné une vision un peu pessimiste du genre humain en disant « Il faut avoir l'ambition de contrecarrer l'ambition. Si les hommes étaient des anges, il n'y aurait pas besoin de gouvernement. » Et en fait, paradoxalement, la Suisse a réussi un tout petit peu à s'approcher de cet idéal dans la mesure où les Suisses ont été assez sages pour ne pas avoir besoin de gouvernement trop fort. C'est ce que Clotilde appelle les nombreux instruments pragmatiques de la recherche du consensus dans le long processus des décisions en Suisse. Et là, je rejoins le professeur Walter, les Suisses s'en sont probablement jamais rendus compte, mais en fait, ils ne savent pas pourquoi, mais dans toute leur histoire, ils ont une longue recherche de consensus et de pacifisme qui finalement leur a permis d'éviter des systèmes gouvernementaux trop durs. Ils ont toujours pu vivre avec un système gouvernemental extrêmement hétérogène et extrêmement décentralisé. C'est ce que Denis de Rougemont a résumé dans une formule très jolie qui dit « Le fédéralisme repose sur l'amour de la complexité par contraste avec le simplisme brutal qui caractérise l'esprit totalitaire. » Donc on le voit très bien, esprit totalitaire, on part du principe qu'un système global marche très bien, et le fédéralisme, lui, requiert de la complexité, requiert une extraordinaire complexité, et je dis toujours, c'est certainement pas un hasard si la Suisse produit les montres les plus compliquées du monde, c'est parce que le système politique suisse lui-même est tellement compliqué que les gens sont habitués à cette complexité. Par ailleurs, la Suisse, au cours de son histoire, a bénéficié de caractéristiques qui l'ont aidé à bâtir son système fédéral. Premièrement, il y a en Suisse toute une série de clivages qui pourraient être considérés comme une promotion de la séparation, du séparatisme, mais en fait, les clivages sont tellement variés, ils se recoupent sans se juxtaposer, que les différences s'annulent. Si vous prenez en Suisse, il y a trois régions principales, le Jura, le plateau, les Alpes, il y a 26 cantons, il y a deux religions principales, il y a quatre langues, et toutes ces différences vont se juxtaposer les unes sur les autres. De sorte que finalement, si on prend les langues, les religions, le statut social, le canton d'appartenance, la région du canton, l'importance de la commune, puisqu'en Suisse, tout petit pays, il y a 2700 communes, et à l'époque de Chanoux, il y en avait 3100. Si on prend toutes ces différences, on peut dire que chaque Suisse représente une minorité. Et donc, vous avez en Suisse 7000 minorités, et toutes ces minorités, finalement, vont réussir à coexister parce qu'on n'arrivera que très rarement à opposer des groupes de gens en Suisse. Ça se produira une fois en 1847. La Suisse est aussi un tout petit pays, il y a des grandes différences entre cantons. Ça, c'est une chose qui ne dérange pas, parce que beaucoup de fédérations connaissent cette spécificité. Il y a peu de mécanismes institutionnels de centralisation, même s'ils sont arrivés au cours du XXe siècle, mais il en reste peu. Le système des partis politiques est resté extrêmement décentralisé, avec des grandes différences d'un canton à l'autre. Les représentants d'un parti politique dans un canton ne sont pas forcément les mêmes que dans l'autre canton. Donc on trouve toujours ce Kantonligkeit, cet esprit cantonal. La coopération suisse a une longue histoire, et ça, on ne le dira jamais assez. La Confédération suisse remonte à 1291. Quand vous avez 700 ans d'histoire commune, ça compte énormément. Et beaucoup de malheurs vécus par les pays au XXe siècle ou à l'heure actuelle sont dus au fait que ces pays sont des constructions récentes. On pense à la destruction de l'ex-Yougoslavie. C'est un pays qui a eu à peine le temps de vivre très artificiellement, qui s'est décomposé. La Suisse a 700 ans d'histoire, et ça, c'est un avantage très précieux. La Suisse a été menacée par de puissants voisins, il y a des professeurs matières, ça aide aussi beaucoup, ça aide à se maintenir. La Suisse connaît une grande classe moyenne, cultivée, familiarisée avec les questions du droit, de l'administration, de la démocratie, ça aide énormément. Les médias sont restés décentralisés. Il y a en Suisse le record mondial du nombre de journaux différents par habitant. Et il y a une relation de confiance très inhabituelle entre les forces armées et les politiciens. Donc, tout ça, ce sont des éléments objectifs qui aident à comprendre que le fédéralisme suisse a pu si bien durer. Malgré tout, l'image idyllique de la Suisse comme un pays extrêmement calme, extrêmement pacifique, remonte surtout à l'époque de Chalmont, à l'époque de cette fin de la Première Guerre mondiale, qui a vu justement cette stabilité suisse être véritablement montrée en exemple. Précédemment, la Suisse a connu passablement de tensions, et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que jusqu'au début du 19e siècle, la Suisse était un pays très pauvre. On imagine toujours la Suisse comme un pays très riche, mais les Suisses eux-mêmes, ce qui est tout à fait faux, en 1815, le tsar de Russie a dû envoyer en Suisse des quantités de blé pour lutter contre la famine du pays. Donc la vision d'une Suisse prospère et calme est une vision récente, mais qui correspond à une réalité qui, je dirais, l'aboutissement de ce long processus de vie en commun, parce que, c'est ce que disait Jacques Frémont, quand il voulait utiliser l'image de la Suisse pour la construction européenne, il disait « Les Européens, comme les Suisses, ont l'obligation d'exprimer leur volonté de vivre en commun qui fait de l'acceptation de la diversité la condition de l'unité. » Et c'est une chose que, heureusement, la Suisse a très bien su faire en basant son unité sur la diversité et en ne cherchant pas à baser l'unité sur le totalitarisme. Quelques mots sur la sagesse qui a présidé à la création de la Suisse. Sur les Suisses, Machiavel décrivait comme très libres et très armés, et donc les Suisses ont su jouer sur ces deux tableaux. Mais au fil des siècles, effectivement, leur unité a eu tendance à se déliter. Le magnifique exemple de démocratie qu'ils donnaient était de moins en moins démocratique, de sorte que vers 1787, quand les pères fondateurs de la Constitution américaine se sont réunis à Philadelphie pour discuter de la possibilité de doter les États-Unis d'une constitution fédérale, ils ont fait le tour de tout ce qui existait dans l'histoire comme fédération, confédération, union, etc. Et à ce moment-là, ils ont pensé à la Suisse, mais ils ont décrit la Suisse comme exactement l'exemple à ne pas suivre. Hamilton décrit la Suisse dans le chapitre numéro 19 de son livre. Les liens entre les cantons suisses représentent à peine une confédération, bien qu'ils soient parfois cités comme un modèle de stabilité pour de telles institutions. Ils n'ont pas de territoire commun, pas de troupes communes, même en temps de guerre, pas de monnaie commune, pas de justice commune, aucune autre part de souveraineté en commun. Selon lui, les cantons tenaient ensemble par leurs intérêts communs, mais la confédération était une piètre garantie de cohérence. Quelque efficacité que cette union puisse avoir en temps normal, il m'apparaît que dès le moment où une cause de différence surviendra capable de mettre à l'épreuve sa résistance, elle s'effondrera. Donc, Hamilton voyait dans les Suisses une union beaucoup trop faible qui allait s'effondrer, et c'est effectivement ce qui est arrivé lorsque Napoléon, en 1798, a envahi la Suisse sans aucun problème, et il l'a transformée en un État centralisé à l'image de la République française. La Suisse est devenue la République helvétique. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que les Suisses se sont fortement révoltés contre cette centralisation, et à ce moment-là, ils ont pu prendre conscience de l'opportunité de rester divers. Les Suisses ont détesté la centralisation napoléonienne, et au bout de 5 ans de troubles, d'émeutes, ils se sont rendus à Paris pour dire à Napoléon, écoutez, ça va pas. Et Napoléon, à ce moment-là, a dit cette fameuse formule, la nature a fait votre État fédéral, vouloir la changer ne serait pas d'un homme sage. Et ce qui est très intéressant, c'est que les plus grands hommes peuvent se tromper, parce qu'on cite toujours cette phrase de Napoléon pour témoigner de son génie, mais la phrase est tirée de son contexte, parce que quand on lit la phrase dans son ensemble, il continue en disant « Et la nature a fait de votre pays un État éternellement pauvre qui sera toujours condamné à n'être que le satellite de la France. » Donc là, les grands hommes peuvent parfois se tromper. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les Suisses ont vécu des expériences multiples qui ont pu les convaincre de l'importance du fédéralisme. Car après l'épisode napoléonien, ils sont redevenus une confédération extrêmement lâche d'États souverains, de cantons totalement souverains à partir de 1815. Mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le développement de l'industrie en Europe, la révolution industrielle, le développement des moyens de communication, faisait de ce groupement de petits cantons au cœur de l'Europe une structure complètement archaïque et obsolète. Chaque canton avait ses monnaies, ses douanes, ses taxes, ça ne marchait pas. Et pour aller de Genève à Zurich, il était plus facile de passer par la France et par l'Allemagne que de traverser tous les cantons suisses. Donc, vous avez eu à l'intérieur du pays deux tendances. Vous avez eu une tendance conservatrice défendue par les cantons catholiques qui voulaient garder la confédération de cantons souverains. Et vous avez eu une tendance réformatrice de cantons protestants qui, eux, voulaient un État fédéral à l'américaine. Je passe sur les détails, mais c'est intéressant de noter que cette juxtaposition d'opposition protestant réformateur, catholique conservateur, a conduit à une guerre civile, parce que pour une fois, on a eu une conjonction des clivages. Et donc, il y a eu tellement de clivages que la guerre civile a éclaté. Fort heureusement, en 1847, comme les cantons catholiques ont perdu la guerre, ils étaient très faibles, ils ont très vite perdu. C'est une guerre qui a eu fort peu de morts, fort peu de victimes. Et en 1848, tout le monde est assis à la table des négociations pour, de sagesse, décider d'adopter une constitution fédérale. Et c'est comme ça que la Suisse a été dotée d'une constitution fédérale et est devenue en 1848 une fédération à part entière. Mais parce que les vainqueurs de la guerre, les vaincus de la guerre, ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Vous avez de nombreux autres pays dans lesquels les guerres laissent des cicatrices qui durent des siècles. Et en Suisse, non, heureusement, ça a pu être réglé relativement rapidement. Et c'est ce que disait, je ne sais plus qui, mais j'ai noté là, un peuple a besoin de ne pas être condamné à rester la victime passive des clivages dont il hérite. Et donc, là encore, les Suisses ont décidé d'aller de l'avant et de ne pas rester statiques et de faire preuve de sagesse pour se doter d'un nouvel État. Mais ce qui est intéressant, et on voit jusqu'où va le sens de la sagesse, à ce moment-là, la nouvelle constitution fédérale a dû être adoptée par tous les cantons et tous les citoyens de Suisse. Primitivement, le pays s'appelait Confédération helvétique. Il était transformé en une fédération. Mais pour ne pas troubler les citoyens, pour ne pas troubler les électeurs, les pères fondateurs de la nouvelle constitution ont gardé l'ancien nom, Confédération. En disant, si on change le nom, les gens vont être embêtés, ils ne vont pas apprécier. Donc on garde l'ancien nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et beaucoup de gens dans le monde sont troublés, la Suisse s'appelle officiellement Confédération helvétique, alors que ce n'est pas du tout une confédération. Mais c'était aussi par sagesse pour ne pas troubler les gens. Pourquoi cette sagesse? Il y a peut-être un élément qui peut l'expliquer. C'est que finalement, au XIXe siècle, il n'y avait pas forcément en Suisse que les crétins des Alpes, mais dans leur grande majorité, les Suisses étaient des paysans libres et des artisans. C'était donc des gens qui avaient un horizon intellectuel plus riche que celui de simples ouvriers de ferme ou d'ouvriers d'usine. Et donc des gens qui réfléchissaient et qui avaient à organiser leur journée et qui donc avaient une sorte de compatibilité entre leur style de vie et leur constitution. Et donc, en dépit d'un certain primitivisme du pays à l'époque, il y avait quand même un élément de culture politique qui était très intéressant. Un autre élément qui a joué un rôle très important dans la sagesse de la Suisse, c'est sa neutralité. Parce que la neutralité est née d'une impasse. Comme l'a très bien relevé le professeur Walter, les Suisses ont été armés, ils se sont engagés dans des batailles jusqu'en 1515. Marignan, ils ont perdu, et à ce moment-là, sagement, ils ont décidé de rester neutres en disant on n'arrive plus à être en compétition sur la scène internationale. À l'intérieur, on risque aussi peut-être des déchirures. Donc, on est totalement neutre. Et comme ça, ça nous évitera des problèmes envers l'intérieur, envers l'extérieur. Ça rendait, cette neutralité a rendu service aussi à l'Europe, qui a toujours été très contente d'avoir un ensemble de cantons neutres au milieu de l'Europe. Ben, ça servait à plein de choses, parfois pas très reluisantes. Et la neutralité suisse a été confirmée un siècle plus tard dans les traités de Westphalie. Donc, cette neutralité suisse a eu un effet extraordinaire, c'est qu'elle a empêché la Suisse d'être démembrée par les intérêts de ses voisins. Et je ne peux pas m'empêcher de faire l'horrible comparaison avec le Liban à l'heure actuelle, le Liban qu'on décrit comme la Suisse du Proche-Orient, mais le Liban est complètement déchiré par ses voisins, alors que la Suisse, grâce à la sagesse de sa neutralité, a réussi à ne jamais être détruite par les ambitions de ses voisins. Donc, c'est vraiment une preuve de sagesse. En ce qui concerne le fédéralisme, comme les Suisses ont fait preuve d'une véritable sagesse, ils ont fait preuve d'un véritable fédéralisme en rappelant que quand ils ont créé leur État fédéral, ils l'ont véritablement décentralisé et ils se sont donné les moyens d'adopter un système véritablement décentralisé parce qu'ils avaient connu les affres de la République helvétique imposée par Napoléon et ils savaient qu'ils n'en voulaient pas. Donc ils savaient qu'ils voulaient un système où véritablement le pouvoir était extrêmement décentralisé et encore à l'heure actuelle, les experts considèrent que la Suisse est la plus décentralisée des fédérations du monde, suivie par le Canada. Mais c'est vraiment un pays dans lequel le fédéralisme, au sens de décentralisation, n'a jamais été un faux argument, comme l'a été par exemple le fédéralisme de la Russie à l'époque soviétique, où le pays se voulait fédéral, mais était en fait très centralisé. Ou comme le fédéralisme voulu par la Ligue du Nord en Italie, mais qui n'est pas du vrai fédéralisme. En Suisse, le fédéralisme, dès le départ, a été considéré comme l'expression d'un pouvoir extrêmement décentralisé et jusqu'aux communes, puisque le pouvoir en Suisse est incroyablement réparti et disséminé. Et voilà. Et je vous cite des analystes suisses qui expliquent que cette extraordinaire décentralisation, ce sens de l'éparpillement du pouvoir est finalement assez mystérieux. On ne sait pas pourquoi les Suisses acceptent beaucoup plus qu'ailleurs de décentraliser. C'est peut-être dû au fait que les origines alpestres du pays remontent à des communautés montagnardes dans lesquelles le pouvoir devait être vraiment réparti, car ces communautés était très pauvre et devait se montrer très solidaire pour lutter contre les événements. Il n'avait pas les moyens de s'offrir l'entretien d'un roi ou d'un roi télé local. Et les gens devaient faire preuve de beaucoup de solidarité. Il s'est resté à travers toute l'histoire du pays. Véritable fédéralisme, véritable démocratie, puisque en Suisse, il n'y a aucun pays au monde qui a autant d'institutions de démocratie directe, et on va voir que même pendant la guerre, ça a fonctionné. Vous avez un auteur tessinois, Francesco Chiesa, qui dans les années 1870 a décrit un phénomène qui l'a beaucoup frappé. Il a dit « Les bergers qui passent l'été sur l'alpage descendent de temps à autre au village pour renouveler leurs provisions, et leurs provisions sont le pain, le vin, le sel et les journaux. » Et il était très impressionné de voir que les bergers perdus dans les montagnes, en fait, étaient aussi informés des choses de l'actualité que lui, le lettré qui venait de la ville. Et donc, là aussi, il y a une longue tradition en Suisse d'intérêt de la population pour la chose démocratique, et ce qui, évidemment, rend le citoyen suisse un petit peu différent de celui d'autres pays. Et on le voit très bien dans le côté extrêmement participatif de la démocratie en Suisse, puisque la Suisse a refusé de se contenter de la démocratie représentative. Donc la Suisse n'est pas un pays qui va une fois tous les quatre ans élire ses députés, mais en Suisse il y a toutes les institutions de la démocratie directe, les référendums, les initiatives au niveau fédéral, au niveau cantonal, de sorte que pratiquement en Suisse on va voter tous les trois mois, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est aussi intéressant à noter que c'est une spécificité très suisse dans la mesure où la démocratie directe ne peut exister que si elle est pratiquée en abondance. Si vous avez de nombreuses votations, vous arrivez à déconnecter ces votations du contexte personnel. Et si vous avez un référendum tous les 10 ans, il est évident que le référendum va devenir plébiscitaire. Est-ce que les Français n'ont toujours pas compris? Parce que quand vous avez Chirac qui fait son référendum sur l'Europe, il est évident que les gens ne vont pas du tout voter sur l'Europe, mais ils vont voter sur Chirac. C'est exactement ce qui s'était passé en 69 avec le général de Gaulle. Le vote sur les régions a été soumis au référendum. Les gens n'ont pas du tout voté sur les régions, ils ont voté pour ou contre de Gaulle, ce qui était absurde parce que ça a fait perdre une excellente modification. Les idées proposées étaient magnifiques pour la régionalisation en France, mais en fait les gens ne savaient même pas de quoi voter, ils ont voté contre de Gaulle. Et donc la démocratie directe ne peut fonctionner que si, comme en Suisse, elle est utilisée à un rythme tellement abondant que finalement, les votations sont déconnectées du contexte personnel, parce qu'en Suisse, si le gouvernement soutient un projet et que le gouvernement est désapprouvé, il ne peut pas démissionner, sinon il démissionnerait tous les 6 mois. Donc, là, on a aussi une grande habitude de la démocratie en Suisse qui est utilisée et surutilisée. Dans ce contexte-là, un mot important sur le Conseil fédéral, parce que là aussi, dans cette volonté de préserver la diversité, à l'époque où il s'est agi de trouver un modèle de constitution, les Américains, en réfléchissant et en créant le fédéralisme, étaient évidemment des colons anglais, ils avaient en tête un roi, et ils se sont dit, on va faire la même chose aux États-Unis, donc ils ont créé un régime présidentiel avec un président pratiquement royal. Ce très amusant, c'est que les Américains à Philadelphie avaient envisagé de créer une chambre des lords et de créer une noblesse américaine. Et il y a des délibérations à la dernière qui sont très amusantes à lire, parce qu'on voit qu'ils avaient des visions qui n'étaient pas forcément toujours très démocratiques des choses. Ben finalement, ils ne l'ont pas fait, mais le président des États-Unis est à l'image du roi d'Angleterre. Alors que la Suisse, dans le même contexte, dans la même idée de trouver une constitution fédérale, a suivi les États-Unis sur beaucoup de choses, mais pas sur le chef d'État, en disant « on ne peut pas, dans un pays si divers, créer un système trop personnalisé ». Et alors la Suisse a repris un système de conseil fédéral, un gouvernement collégial, qui permet d'avoir un gouvernement de 7 personnes susceptibles de représenter la variété du pays. Et donc, on verra qu'au fil des années, les 7 personnes ont été utilisées pour diverses sortes de représentations et en évoluant vers une différenciation de plus en plus grande, puisque au départ, ils étaient tous du même parti politique et maintenant, ils représentent les 4 principaux partis politiques. Mais là encore, variété, diversité, démocratie et surtout éparpillement du pouvoir, ce qui, au cours des siècles, a été une constante de l'histoire suisse. Et cette constante de l'histoire suisse a suscité beaucoup d'admiration. Chanoux a écrit des pages magnifiques sur la Suisse, mais il n'était pas le seul. Il y a un auteur, Goetz, qui s'est amusé à faire la liste de tous les écrivains et les penseurs et les juristes qui ont fait l'apologie du système suisse. C'est évidemment impressionnant, parce qu'il y a tout plein de gens qui ont trouvé que la Suisse était un pays magnifique, un modèle, etc. etc. Bon, voilà, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le fédéralisme suisse repose sur une très longue tradition. Et alors maintenant, qu'en est-il pendant ces années d'entre-deux-guerres, là où Chanoux a vu la Suisse, qu'a-t-il vu et comment cela, ce qu'il a vu, est-il déterminé par cette longue tradition du fédéralisme suisse? Avant toute chose, un petit mot pour dire qu'il ne faut pas être dupe quand même et trop idéaliser la Suisse, parce que on ne va pas entrer dans ce grand débat. Il y a eu la question des fonds en déshérence, de l'accueil des Juifs pendant la guerre. Chanoux n'a certainement pas vu ces aspects très cachés, mais maintenant on découvre que effectivement la Suisse avait des cadavres dans ses placards et de la poussière sous ses tapis, et que pendant la guerre tout n'était pas vraiment transcendantal, et que effectivement si la Suisse a résisté au totalitarisme du point de vue militaire, ce n'était pas forcément uniquement dû à la force de son armée, mais aussi aux compromissions de ses élites. Quand on sait, par exemple, c'est le fils du général Guisan, un héros en Suisse, mais c'est son fils qui a vendu les baraquements pour le camp d'Auschwitz, disons que ça fait un peu froid dans le dos. Mais cet aspect, mis à part, qui touche plutôt les élites du pays, il est évident que dans l'ensemble de la population, les caractéristiques que j'expliquais tout à l'heure ont permis à la population de résister au totalitarisme. En fait, la Première Guerre mondiale a été une période très troublée en Suisse, et ça ne s'est pas très bien passé, parce que finalement, personne n'était préparé. La guerre a éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel d'azur. Très vite, il y a eu des clivages entre les communautés linguistiques du pays, parce que visiblement, les Suisses alémaniques étaient en faveur des Allemands, les Suisses romands étaient en faveur des Français, et entre les deux communautés, les tensions étaient très grandes. Par ailleurs, il y a eu de grands problèmes d'approvisionnement. Une délégation des pouvoirs directement au Conseil fédéral, le Parlement a abdiqué tous ses pouvoirs d'urgence envers le Conseil fédéral, et le Conseil fédéral a nommé un général en chef de l'armée, le général Villet, qui était un amateur, un admirateur inconditionnel de l'armée prussienne, ce qui évidemment n'était pas extraordinaire. Il y a même eu, à un moment donné, un conseiller fédéral qui s'est engagé tellement fort dans une tentative de paix séparée entre l'Allemagne et la Russie que, au moment où sa mission a été découverte, le scandale a été énorme et il a dû démissionner immédiatement. Mais preuve de sagesse, et c'est là que c'est merveilleux, parce que les Suisses ont toujours su faire preuve de sagesse vers la fin de la guerre pour calmer les Romans, les Latins, les Belges, qui étaient vraiment outrés par ce qui s'était passé, on leur a offert un deuxième siège au Conseil fédéral, et depuis lors, ce deuxième siège n'a plus jamais été contesté. Et c'est seulement après la guerre, quand la Suisse est entrée à la SDN et que la situation s'est un peu calmée, qu'au niveau du pays, tout s'est remis et que finalement, les guerres ont été oubliées. Une fois encore, ça aussi, la sagesse du pays, on essaye d'arranger les choses, et une fois que la crise est passée, on l'oublie, et on ne vient pas à dire, oui, mais écoutez, il y a 200 ans, il s'est passé ceci ou cela, on va de l'avant. À la fin de la guerre, il y a de la Première Guerre mondiale, il y a aussi eu un élément tout à fait surprenant en Suisse, l'introduction de la représentation proportionnelle. Alors que dans plein d'autres pays, la fin de la guerre a immédiatement marqué le début vers une période de totalitarisme et donc de concentration du pouvoir politique, qu'est-ce qu'on fait en Suisse? On introduit la proportionnelle, c'est-à-dire un éparpillement, une répartition du pouvoir politique. Cette question a été discutée depuis 50 ans, c'était une très longue discussion, parce que comme toujours en Suisse, tout va très lentement, chez nous il n'y a rien qui se fait rapidement. Tout prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, on est toujours les derniers à faire les choses, le suffrage féminin, l'entrée à l'ONU, mais en 1918, la proportionnelle a été introduite, et elle n'a pas immédiatement bouleversé véritablement le système politique, mais elle a introduit la perte de puissance des radicaux, un renforcement des socialistes. Et si le gouvernement, donc le Conseil fédéral, n'a pas été immédiatement marqué par cette proportionnelle, ce sera plus tard. Mais enfin, c'était les premiers pas vers un élargissement très grand du spectre politique. Donc là aussi, en pleine fin de guerre, au lieu de voir la solution dans la centralisation, on le voit dans l'éparpillement. Il y a eu évidemment pendant ces périodes troublées une certaine diminution de la démocratie, en ce sens que le Conseil fédéral a pu bénéficier de pouvoirs d'urgence, il a pu gouverner avec des décrets qui n'étaient pas soumis au référendum, dont il ne s'est pas privé de jouer. Et finalement, c'est seulement en 1949, que le Conseil fédéral abandonnera complètement tous ses pouvoirs d'exception, parce que après la Première Guerre mondiale, il a eu de la peine à perdre ses pouvoirs un peu spéciaux. Ensuite, il y a eu la crise de 1929 qui a redonné des pouvoirs extraordinaires. Puis la Deuxième Guerre mondiale. Donc le Conseil fédéral et l'administration ont quand même eu droit à des pouvoirs spéciaux, mais qui ont quand même toujours été contrebalancés par la démocratie directe qui n'a jamais cessé d'exister en Suisse. La gestion des conditions et des conflits économiques a été importante parce que finalement cette période de l'entre-deux-guerres a été l'occasion d'une tension très grande entre les forces de droite et les forces de gauche. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de grandes émeutes, notamment en novembre 32 à Genève, qui a eu une grève générale en 1918. Il y a eu des émeutes syndicales en 1932 qui ont été réprimées par la Confédération, réprimées par l'armée qui a fait de nombreux morts. C'était vraiment dramatique. Et ça a créé un grand choc dans l'opinion. De sorte que là aussi, la sagesse s'est exprimée. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les partis de gauche, notamment les partis socialistes, se sont distancés des idéologies trop gauchisantes et trop communisantes pour se rapprocher de la défense des intérêts nationaux. Et donc, dans le contexte de cette bataille économique, la gauche a renoncé à des excès de gauchisme pour finalement soutenir le gouvernement, soutenir le pays. C'est de nouveau une très belle preuve de sagesse. Parce que la démocratie fonctionne quand même, et pendant toute cette période, il y a eu constamment des initiatives, des référendums, il y a eu une remise à jour de la construction législative, il y a eu un retour des périodes, dans des procédures de consultation, il y a eu de nouveau cette recherche du consensus qui, paradoxalement, a conduit à partir de 1936 à une très grande restauration des forces nationales. À partir de 1936, toute cette agitation de gauche, de droite qui a bouillonné dans le pays a finalement été évacuée par les scrutins populaires, Et à partir de 1936, le pays s'est retrouvé pour aller vers quelque chose de plus national, ce qui évidemment lui a permis de mieux tenir le choc de la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, c'est tout à fait remarquable, et c'est certainement dans cette Suisse-là que Chanot a trouvé des raisons de s'émerveiller d'un pays qui réussissait à ne pas sombrer dans les extrêmes. Dans ce contexte-là, des extrêmes justement, il y a eu des initiatives visant des questions des deux bords. Par exemple, en 1934, les mouvements de gauche ont déposé une initiative. Donc, de nouveau, vous imaginez, 1934, en Allemagne, on est en pleine période hitlérienne, donc la démocratie n'existe plus. En Suisse, on discute, il y a des initiatives populaires. Donc, en 1934, il y a une initiative de gauche intitulée « Pour la lutte contre la crise économique et la misère » qui entend instaurer un système très communisant, disons, quelque chose, une économie très planifiée à la sauce soviétique. Grand débat, mais cette initiative est rejetée par le peuple. D'un autre côté, vous avez des mouvements de droite qui déposent des initiatives. Vous avez eu une première en 1920. C'est une initiative qui préconisait l'expulsion des indésirables. Je rappelle à M. Walter, n'est-ce pas, 1920, on parle de l'expulsion des indésirables, et 2007, l'affiche de l'UDC. Vous voyez qu'ils n'ont rien inventé de nouveau, on est exactement dans le même contexte, balayé par le peuple. Et à ce même moment, il y a eu, en septembre 1934, le dépôt d'une initiative demandant la révision totale de la Constitution fédérale. C'est un phénomène unique dans toute l'histoire du pays. Donc, une initiative demandant une nouvelle constitution. Et cette initiative a été déposée par des partis frontistes, donc une série de groupuscules d'extrême droite, qui ont dit il faut changer la constitution. Ils n'ont pas proposé véritablement d'idées, c'est très peu documenté, parce que finalement, ce genre d'initiative a été soumise et simplement soumise au vote du peuple, sans commentaire, voulez-vous, oui ou non. Et on savait, évidemment, que là derrière se cachait la volonté de créer un État totalitaire, un État beaucoup plus inspiré des fascismes autour de la Suisse, avec beaucoup de fédéralisme, mais une espèce de surhomme, une vision de fédéralisme mais dévoyée et antidémocratique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que cette initiative a été massivement rejetée par la population, qui donc a fait preuve de beaucoup de solidarité. On ne cède pas aux extrêmes, ni de droite, ni de gauche. On va pour nous. Et alors, un exemple magnifique de cette idée de préserver la démocratie et la diversité, 1938, la reconnaissance du Romanche. Alors que Hitler et Mussolini étaient plus que jamais puissants, il fallait vraiment sceller l'unité du pays. Et pour sceller l'unité du pays, qu'est-ce que le Conseil fédéral a trouvé ? C'est l'idée de reconnaître une quatrième langue nationale. Donc, pour unir, on reconnaît la diversité. Et le message concernant la reconnaissance du Romanche, qui est d'ailleurs tout à fait symbolique, puisque pratiquement personne ne parle de Romanche en Suisse, donc c'est vraiment un demi pour cent. Mais c'est vraiment très décoratif, ça ne correspond pas à un besoin profond, mais c'était vraiment le symbole qui était important plus que la réalité concrète. Et le message pour cette reconnaissance a été écrit par le conseiller fédéral Letter en personne, qui a pris le contre-pied de la dialectique du Reich, enfin, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Non, c'est tout le contraire, on se divise complètement. Et là, il y a un très beau passage du message que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Un des traits essentiels qui caractérise l'aspect spirituel de la démocratie suisse, le respect du droit et de la liberté de l'individu, et par suite le respect du droit de la langue maternelle. Sans liberté de la langue maternelle, il n'est pas de véritable liberté de l'esprit. selon nous, c'est cette loi non écrite, mais d'autant plus puissante, du respect de l'être humain et de sa langue maternelle, qui explique comment il se fait que dans nos pays où vivent en étroite communion des populations de quatre langues différentes, nos rapports n'ont jamais été troublés par une question de langue. La richesse de notre vie nationale a sa source dans la multiplicité des formes de nos valeurs spirituelles et l'épanouissement de la vie et de l'esprit. La votation a été acceptée par 92% de lui. Et donc, c'est la preuve véritablement que ce fédéralisme extrêmement décentralisé a traversé les siècles pour avoir sur son couronnement aux heures les plus sombres de l'entre-deux-guerres et pour véritablement montrer que la diversité était une valeur extrêmement précieuse. Je finis en disant que dans la continuation de la proportionnelle, Chanot a juste pu vivre en 1943 l'arrivée du premier socialiste au Conseil fédéral et qui a marqué la première étape de ce qui allait devenir à partir de 1959 la formule magique, c'est-à-dire la composition du Conseil fédéral en tenant compte des quatre principaux partis gouvernementaux. On est vraiment dans l'atomisation totale du pouvoir qui a permis à la Suisse de survivre. Je dirais que c'est comme le chêne et le roseau. La Suisse est un roseau, mais un roseau pensant, qui a réussi à faire face à toutes les vicissitudes de l'histoire en étant sage, modeste et pragmatique. Je vous remercie.